D'accord, bonjour à tous. Jean Bouvier du CSTB, je suis avec Eric Amanou, qui n'est pas du CSTB, mais qui travaille avec nous. CSTB, je le dis tout de suite, parce qu'on me pose régulièrement la question, c'est-à-dire Centre scientifique et technique du bâtiment. Ça n'a rien à voir avec la gestion urbaine. C'est pour ça qu'on y travaille, d'ailleurs. Non, parce que dans le bâtiment, il y a des usagers, des habitants, et que les habitants, de fil en aiguille, ça a à voir quand même avec toutes ces questions d'habitat au sens large, de ville, et donc de gestion urbaine. Je le fais en raccourci. Alors, beaucoup de choses ont été dites par Pascal Garcia et Stéphane, le Texier. Je vais peut-être dire deux, trois choses de plus avant que vous ayez la présentation de deux projets de gestion de urbaine de site, parce que c'est le morceau de bravoure de la matinée. Donc, effectivement, deux, trois compléments, éclairages. Eric, tu interviens quand tu veux. Alors, peut-être sur notre problématique de la gestion urbaine de proximité et de la gestion urbaine, ça c'est le propos au CSTB, c'est l'approche qui a été développée par Bonetti, Michel, sociologue au CSTB avec lequel on travaille, et qui pose le fonctionnement social urbain comme la résultante d'un certain nombre de facteurs liés aux habitants et aux usagers, en haut à gauche, à l'action politique en dessous et en vis-à-vis aussi qui tiennent aux configurations urbaines et architecturales des lieux et des espaces de la ville et enfin la gestion urbaine. La gestion urbaine est un de ces facteurs qui va en quelque sorte en interaction avec les autres fabriquer ce que nous appelons le fonctionnement social urbain. Pascal Garcia parlait d'ambiance urbaine. Qu'est-ce qui fait qu'un quartier fonctionne, un territoire, une résidence fonctionne bien, mal ou dysfonctionne? Eh bien, bien sûr qu'il y a des problèmes généraux de la société, etc., etc., qui jouent en arrière-fond, en paysage. Mais la différence entre un territoire et un autre, un quartier et un autre, ici, de l'autre côté de la rue, va se jouer sur ces différents facteurs. Et la gestion urbaine va intervenir en articulation avec ces autres facteurs pour, en quelque sorte, générer des usages, des pratiques, des relations sociales, etc., sur un territoire. Bon, je ne le développe pas, c'est un peu notre toile de fond. Nous inscrivons la gestion urbaine dans cette problématique d'analyse qu'on a développée depuis une vingtaine d'années déjà, avec un certain nombre de travaux de recherche, d'enquête, notamment auprès des habitants. Donc la gestion urbaine va contribuer, en quelque sorte, va avoir des effets sociaux importants via cette notion que nous appelons le fonctionnement social urbain. Je ne le développe pas plus, mais c'est notre toile de fond. Partant de là, en termes de gestion urbaine, quelques principes qu'on considère comme importants pour approcher la gestion urbaine, c'est que ce fonctionnement social urbain dont je parlais, il va se jouer d'abord à de petites échelles. Bien souvent, la gestion urbaine a été abordée sous l'angle de la politique de la ville, avec des grands quartiers d'habitat sensibles, etc. Et on avait tendance, comme pour le projet urbain, à être sur une approche de la gestion urbaine qui est encore assez large et qui développe des approches à l'échelle de quartier. Nous pensons que, justement, le fonctionnement social urbain, les usages, les pratiques, etc., il se joue d'abord, pas uniquement, mais d'abord à de petites échelles. Petites échelles, on ne va pas en faire une loi, mais c'est plus souvent une résidence, un ensemble de résidences, 200, 300 logements, sur lesquels on va retrouver un fonctionnement social urbain qui sera particulier par rapport à, encore une fois, l'autre côté de la rue, un autre îlot, etc., etc. Donc on est sur de petites échelles et qui vont plaider ou qui vont nécessiter une approche qui va être ciblée de la gestion urbaine. Pour être efficace, nous pensons qu'il faut avoir ou travailler sur des mailles resserrées au niveau de la gestion urbaine. D'où l'idée de site, sur laquelle on viendra, bien sûr. Deuxième principe, en quelque sorte, et c'est là encore issu aussi de tout le travail d'évaluation qui a été fait, pas que par nous, mais par tous les acteurs sur la gestion urbaine. La gestion urbaine n'est pas limitée, ne doit pas être limitée aux prestations quotidiennes d'entretien et maintenance. La poubelle dont parlait Stéphane a son importance, bien sûr. Elle est très importante et toutes ces questions de petite maintenance, de travaux, de réparation sont stratégiques. Mais on ne peut pas aussi se limiter à ces seules approches qu'on appelle du quotidien. La proximité, c'est pas que le quotidien. Je le développe pas plus, mais notamment toutes les questions de vétusté, et précisément quand on aborde les questions de netteté, on peut pas s'en tenir simplement, par exemple, pour donner un exemple classique, à la question du nettoyage. Nettoyer sur un support qui est totalement vétuste, ça ne sert à un moment donné où ça a ses limites. Donc il faut pouvoir aussi travailler sur le support, pour donner un exemple classique. Donc une gestion urbaine qui ne soit pas limitée au quotidien, la prestation quotidienne, et qui ne soit pas limitée aussi à l'espace public. Parce que le fonctionnement social urbain, il se joue dans l'espace privé. On a coutume de dire, nous, que la gestion urbaine, c'est la porte palière à l'arrêt de bus ou à l'arrêt de tram. Donc tout ce parcours, il va fabriquer un fonctionnement social urbain depuis le palier, la cage d'escalier, l'ascenseur, le hall, les parties communes de l'immeuble, le seuil, l'entrée, l'espace résidentiel, la rue, etc., etc. Tous ces espaces, ces multiples espaces, qui ne sont pas simplement l'espace public, vont jouer sur le parcours, la qualité de vie de l'habitant, qui rentre chez lui le soir, à travers tous ces espaces, sort de chez lui le matin, et pratique ces espaces. Donc, ne traiter que l'espace public, effectivement, en termes de gestion urbaine, n'aurait pas de sens. Il faut pouvoir embrasser, je dirais, toutes ces dimensions-là. Bien sûr, chacun a ses prérogatives. La ville gère l'espace public. Mais en termes d'approche et de démarche, il faut sans doute pas se limiter à ce seul espace public. Il y a tous ces espaces collectifs qui jouent dans la qualité de l'habitat et du cadre de vie. Troisième principe, il y en a d'autres, mais je mets l'accent sur ceux qui nous paraissent les plus importants. C'est la question des organisations, j'en parle toujours, mais effectivement, l'efficacité de la gestion urbaine, c'est-à-dire de la gestion de tous ces espaces que j'évoquais, et de cet habitat, va être conditionnée par la capacité des organisations qui gèrent la ville, ici à Grenoble, la métro, les concessionnaires, les bailleurs, les copropriétés, etc. etc. Donc va être conditionnée cette efficacité par la capacité de ces organisations à adapter et à articuler leurs interventions aux enjeux du territoire sur des échelles fines. C'est-à-dire que là où l'efficacité, enfin là où la gestion urbaine sera efficace, c'est quand elle va bien articuler les différentes interventions des uns et des autres, mais parfois les interventions même d'un seul acteur sur sa partie de territoire. Quand on prend la ville sur un bout d'espace public, elle va intervenir avec 1, 2, 3, 4, 5, même s'il y a un chef d'orchestre qui est positionné comme à Grenoble, le responsable de l'antenne, il y a quand même une multiplicité de services et d'intervenants qui vont jouer sur la tenue de cet espace public, sur sa qualité, etc., etc. Donc la question des organisations et leur capacité à mobiliser sur de petits territoires, là où il y a des enjeux, là où il y a des problèmes, l'ensemble des interventions, va effectivement jouer. Donc ça renvoie à toute cette question d'organisation, de management, d'adaptation au territoire, de territorialisation, etc., etc. C'est un sujet énorme, c'est un enjeu énorme, mais il joue précisément dans la gestion urbaine. Et nous avons tendance à le mettre beaucoup en avant. Alors, pour revenir sur l'idée d'expérimentation, puisqu'effectivement, c'est une aventure qu'on partage, nous, le CSTB, avec la ville, la métro et les acteurs sur le terrain. La première chose, c'est que effectivement, on a été d'accord pour considérer, nous, de notre point de vue, et la ville qui était dans cette démarche de gestion urbaine élargie, de gestion urbaine de proximité élargie à l'ensemble du territoire, on était d'accord pour expérimenter. Enfin, c'est-à-dire, très concrètement, c'est qu'on n'est pas dans la duplication d'une méthode, d'une approche, mais on essaye de tâtonner, de tester, d'adapter ces quelques principes que je viens d'évoquer, et puis ceux qui ont été présentés par la ville, pour construire une démarche qui soit efficace le mieux possible. Alors, pour tout dire aussi, parce que c'est important dans notre approche, cette démarche projet de gestion urbaine de site s'inspire d'une démarche qu'on a expérimentée avec les bailleurs, et notamment l'OPH de la ville, Actis. Il y a quelques représentants d'Actis dans la salle aujourd'hui, avec lesquels on a développé cette approche de projet de gestion de site. Donc on est un peu inspiré par cette approche, mais on considère que à l'échelle de la gestion urbaine, ça se joue différemment. Donc on est dans une adaptation, une expérimentation. Et puis le troisième point aussi, c'est que cette approche pour nous au CSTB s'inscrit dans notre programme, puisque le CSTB est un établissement public de recherche et de développement sur ces questions donc du bâtiment, mais aussi de l'habitat et de la ville. Cette expérimentation s'inscrit dans notre programme de recherche de développement sur qui s'appelle la ville durable. C'est le programme de recherche et qui essaye de mettre au point des outils et des méthodes pour les opérateurs de la ville, et notamment d'abord les collectivités locales, sur ou pour un développement urbain durable, le mot est à la mode, mais c'est vrai que la gestion urbaine pour nous participe complètement de la durabilité de la ville soutenable. Je développe pas, mais c'est pour nous au cœur de notre projet, et puis aussi avec une expérimentation sur l'articulation des différentes approches que nous avons au CSTB sur la ville, approche plutôt urbaine, sociologique, économique, sur laquelle je suis au CSTB, et puis les approches plus physiques de qualité de l'air, de qualité d'éclairage, de problèmes de bruit, etc., qui sont développés par nos ingénieurs. Donc cette expérimentation essaye aussi d'articuler ces différentes dimensions, c'est pas chose évidente, mais ça fait partie aussi du caractère expérimental de cette démarche. Alors pour venir à la démarche, ça a été évoqué, hein, mais je réinsiste dessus, Pascal Garcia en a parlé et Stéphane aussi je pense. Donc la première finalité de la démarche était effectivement peut-être au-delà de l'outillage qui avait été mis en place avec le fil de la ville, la main courante qui vous ont été présentées rapidement, c'était peut-être de donner plus de sens et de dynamique à cette démarche de gestion urbaine de proximité que la ville entend développer à l'échelle de son territoire. Donc c'était une première finalité. Le deuxième, c'est effectivement de développer le rôle des antennes dans la gestion urbaine de proximité. Les antennes sont à l'interface entre toute la machinerie, la machine municipale, les services et les habitants. Et elles sont donc les chevilles ouvrières, Pascal Garcia a évoqué, employé le terme, les chevilles ouvrières de cette gestion urbaine de proximité au niveau de la ville. Donc il s'agit d'étayer, de développer le rôle des antennes, en particulier celui du responsable d'antenne, qui est responsable au bout du compte de la mise en œuvre de cette gestion urbaine de proximité. Il y a une dimension effectivement, je parlais des organisations et de la multiplicité des enjeux d'organisation autour de la gestion urbaine. Dans la démarche, il y a aussi bien l'idée de renforcer la coopération entre les services de la ville, les différents services de la ville, et aussi avec les partenaires de la gestion urbaine, notamment bailleurs, et notamment pour le coup Actis, qui est encore une fois le principal opérateur bailleur social sur le territoire de la ville. Donc on est bien sur l'idée de fameuse transversalité, il s'agit de faire travailler les gens ensemble, d'articuler les interventions des uns et des autres sur un territoire relativement restreint. Autre finalité, dernière en tous les cas, c'est qu'effectivement, il s'agit bien de travailler sur ces dimensions, mais concrètement dans l'expérimentation, il s'agit bien d'améliorer aussi de façon concrète, tangible, le fonctionnement social et urbain dont je parlais tout à l'heure, sur quelques sites de la ville, et donc ce faisant de mieux répondre aux attentes exprimées ou pas par les habitants. Donc on est à la fois dans une démarche qui interroge, qui interpelle le fonctionnement de la ville, de la machine municipale, avec ses partenaires, pour donner plus de sens à une démarche, mais aussi on est dans une démarche qui consiste à travailler sur des sites. On n'est pas dans une expérimentation d'école ou virtuelle, mais sur des situations concrètes qu'il s'agit d'améliorer.
Et notamment, c'est de cette dimension, Pascal Sanchez disait tout à l'heure, des projets pour gérer des situations qu'on ne sait pas très bien gérer par notre gestion courante. Donc il y avait aussi dans le choix des sites, essayer d'en choisir quelques-uns sur lesquels on pouvait développer des projets là où on n'était pas très sûr de pouvoir apporter des réponses à la complexité des situations.
Voilà, donc les finalités un peu de la démarche, et puis cette rencontre qu'on a eue entre nos préoccupations CSTB, notre programme de recherche, notre expérimentation avec les bailleurs, en se disant il faut qu'on passe à une autre dimension de la ville, et puis la démarche de la ville. Donc une expérimentation, c'est toujours une rencontre, c'est celle-là, et on a abouti à définir ces finalités. Alors, pour rentrer dans la démarche, maintenant, vous allez avoir deux projets qui vous êtes présentés, enfin au point où ils en sont, par leurs responsables. Alors, point important, toujours construire un dispositif. On n'engage pas une démarche sans préciser qui va faire quoi dans la démarche. C'est du grand classique, mais c'est indispensable. Il faut bien le poser. Donc, un comité de pilotage. Et bien sûr qu'il est apparu naturel à tout le monde, et évident que ça soit le délégué élu à la JUP, Pascal Garcia, ici présent encore une fois, qui le préside, ce comité de pilotage. Et il regroupe les élus, et je dirais, c'est la formulation la plus simple, pour dire c'est les élus et les directeurs de la ville les plus concernés par les projets. Donc en général et systématiquement au comité de pilotage, il y a l'élu de secteur, au-delà de Pascal Garcia, l'adjoint à l'urbanisme, on a une participation des élus qui a pu être variable, j'y reviendrai après, mais bon, présence forte des élus. On a souvent une confusion, je suis sur des grands classiques en disant c'est les chefs de projet qui pilotent. Non, ceux qui pilotent, c'est les politiques. C'est dans une ville. Donc le comité de pilotage pilote, c'est-à-dire il choisit les sites, il valide les projets et il évalue les projets. Donc c'est lui qui fait le bilan au bout du compte de la démarche, de son avancement, etc. En bas, une équipe projet, alors par site, composée par site en fonction des sites, mais qui va mobiliser le technicien espace public qui est dans l'antenne, chaque antenne. Ça a été présenté à un technicien espace public qui est totalement dévolu à ces questions de tenue de l'espace public, etc. Éventuellement, l'agent de proximité qui travaille avec le technicien de l'espace public de l'antenne. Et puis, c'est les intervenants de la gestion du site, c'est-à-dire les services de la ville, classiquement propreté, espace vert, mais ça peut être des concessionnaires, la métro, s'il y a des enjeux sur la collecte des déchets, etc. Voilà, donc c'est en fonction du site. Ça peut être, bailleurs sociaux, pas systématiquement, mais assez souvent. Ça peut être dans certains cas, l'approche est différente, la mobilisation est différente, mais des copropriétés qui soient en jeu. Ça peut être des gestionnaires d'équipements publics. Il y a un site dont Yolande parlera tout à l'heure, où il y a un centre social. Oui, oui. Voilà, donc... Donc les intervenants du site. Et à l'articulation, comité de pilotage, chef de projet, c'est classique aussi, équipe projet, pardon, un chef de projet qui est le responsable de l'antenne. J'insiste, on n'a pas mis beaucoup de temps à se dire quel était le bon chef de projet dans la démarche projet de gestion de site urbaine, projet de gestion urbaine de site. Le responsable de l'antenne paraissait idéalement placé pour être l'animateur de la démarche projet de gestion de site. Parce qu'il est territorialisé, un, c'est important, et deux, parce qu'il est la cheville ouvrière, le responsable de la mise en œuvre de la gestion urbaine à l'échelle du territoire de la ville. Donc on avait là une disposition d'organisation qui se prêtait bien à la construction de ce dispositif. C'est important. Parce que peut-être que dans d'autres villes, ça ne serait pas le cas, ou ça serait plus compliqué. On n'aurait pas cette organisation territorialisée de la ville qui permettrait d'avoir un interlocuteur, j'allais dire, comme le responsable d'antenne, idéalement, je dirais, au carrefour des interventions, des services, etc. etc. Voilà, le chef de projet, c'est l'animateur de la démarche, c'est pas le pilote. L'animateur, c'est lui qui travaille avec l'équipe projet, qui fait avancer le projet, qui fait le reporting au comité de pilotage, etc., etc., de la démarche. Donc la question du dispositif, j'insiste un peu, mais elle est très importante. Et effectivement, ce dispositif, il bouge un peu, il a bougé, alors notamment au niveau du comité de pilotage, où on s'est rendu compte que ce comité de pilotage qu'on a voulu, je pense, spécifique à la démarche, puisqu'on est dans une expérimentation, et donc qu'on a voulu distinguer du dispositif général de la gestion urbaine de proximité que Stéphane a esquissé tout à l'heure, la pyramide là avec les trois niveaux de coordination. Donc on a voulu le comité de pilotage un peu spécifique, mais on s'est rendu compte que son pouvoir, en fait, ses décisions sur les projets n'engageaient pas de fait le financement des projets. Et je parle surtout de la partie petit aménagement dans les projets. Et n'engagez pas aussi de fait et automatiquement la mobilisation des services. Pas parce qu'il y a une démarche expérimentale qui se met en place, un comité de pilotage, et en disant bon, on va s'attaquer à des problèmes effectivement qui peuvent être dans certains cas un peu compliqués, anciens, qu'on n'a pas réussi à traiter jusqu'alors, et qu'on va instituer ce dispositif que magiquement tout le monde va jouer le coup, se regrouper, s'impliquer dans la démarche. La ville de Grenoble est une grande ville, il y a beaucoup de services. Bon, il n'est pas évident qu'on mobilise immédiatement les... Bon. Donc, les décisions du comité de pilotage, méchamment, on pourrait dire, elles ne valent que pour ceux qui les entendent. Donc, il y en a qui ne les entendent pas. Donc, on a éprouvé cette limite au fur et à mesure de la démarche. Donc, pour proposer une adaptation... effectivement pour légitimer et mieux conforter les projets, de dire on a besoin sans doute au-delà du comité de pilotage que les projets remontent en termes de validation sur les aspects financiers et sur les aspects de mobilisation des